Lecture du livre du prophète Isaïe. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, saint, saint le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire. Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le temple se remplissait de fumée. Je dis alors, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » L'un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon brûlant, qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel. Il l'approcha de ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Et j'ai répondu « Me voici, envoie-moi. » Parole du Seigneur.
Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Tous les rois de la terre te rendent grâce quand ils entendent les paroles de ta bouche. Ils chantent les chemins du Seigneur. Quelle est grande la gloire du Seigneur. Je te chante, Seigneur, en présence des anges. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de tes mains. Je te chante,
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Cet évangile que vous l'avez reçu, c'est en lui que vous tenez bon. C'est par lui que vous serez sauvés. Si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé, autrement c'est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci. Quand j'ai moi-même reçu le Christ et mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi. C'est la grâce de Dieu avec moi. Bref. Qu'il s'agisse de moi ou des autres, voilà ce que nous proclamons. Voilà ce que vous croyez. Parole du Seigneur.
Alléluia. Suite, dit le Seigneur, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Alléluia, 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 alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance au large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques à tel point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pêchés. Et de même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout, ils le suivirent. acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus.
Les enfants du primaire sont attendus par Père Gilles pour une homélie adaptée. Frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur soient toujours avec vous. Qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Avons-nous entendu dans la première lecture? L'écho de cette question, frères et sœurs, nous parvient aujourd'hui, après avoir traversé l'histoire de tant d'hommes et de femmes. C'est le signe du dialogue entre Dieu et les hommes. Cet écho consacre leur collaboration en vue d'un monde plus beau, plus juste et plus fraternel. Et c'est dans cette perspective que nous sommes invités à accueillir l'événement de la pêche miraculeuse. Cette occasion de rencontre de Jésus avec Simon et ses compagnons, occasion au cours de laquelle Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » En ce dimanche, il nous est donné, frères et sœurs, de méditer sur notre vocation chrétienne, nous qui sommes appelés pour devenir serviteurs de la parole. C'est une occasion de s'interroger sur comment nous approprier cette réalité et surtout comment la mettre en œuvre. Selon l'évangile que nous venons d'entendre, c'est dans leur quotidien que Jésus fait de Simon et de ses compagnons des pêcheurs d'hommes. Et on peut le dire, c'est encore dans notre quotidien que Jésus vient à nous aujourd'hui pour nous adresser une parole. « Allez au large, nous dit-il, jetez les filets », ce qui est une invitation à collaborer à son œuvre. Saint Paul, dans la première lecture, nous donne à peu près ce qu'on pourrait appeler le mécanisme par lequel nous pouvons répondre à cet appel du Christ en insistant sur quelques points essentiels que nous avons à garder pour pouvoir entrer dans cette mission que Jésus veut nous confier. « Avant tout, nous dit-il, je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. » Cela témoigne de deux choses implicites. Premièrement, j'ai transmis ce que j'ai reçu signifie que Paul n'a rien inventé. Ce dont il est le porteur, il ne l'a pas inventé. Il a reçu, nous dit-il. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il insiste beaucoup sur le fait qu'il faut accueillir et garder fidèlement ce qui a été reçu. Autrement dit, le dépôt de la foi. Voilà, il faut l'accueillir sans aucune volonté de le transformer pour l'adapter soit à nos envies, soit à notre vision ou encore aux visions de la société. Deuxièmement, j'ai transmis ce que j'ai reçu, traduit le besoin impérieux que des hommes et des femmes comme Paul répondent à l'appel du Christ. Oui, Paul est formel dans la deuxième lecture. Génération après génération, l'évangile ou le dépôt de la foi se transmet grâce à ceux et celles qui se sont mis à la disposition du Seigneur au service de la parole. Je ne vous apprends rien, notre foi, nous la devons à nos dévanciers. Et ce mouvement de transmission de l'Évangile, il peut être comparable à une course de relais. Sur le même parcours, régulièrement, des coureurs sont remplacés par de nouvelles équipes, de nouveaux concurrents, auxquels ils transmettent ce que l'on appelle le relais ou le témoin. Et pour l'Évangile, le relais se transmet depuis 2000 ans sans défaillance, grâce bien sûr à ceux et celles qui ont accueilli, obéi et servi la parole de Jésus. Donc des coureurs, frères et sœurs, il en faut absolument, sans quoi la transmission s'arrête. Et il est donc légitime qu'aujourd'hui, en entendant ces textes, ces récits de vocation, cet appel de Jésus à aller au large, il est légitime, frères et sœurs, de nous interroger. Oui, ces maillons de la transmission, du dépôt de la foi, est-ce que nous voulons vraiment en être? Et si c'est le cas, que faisons-nous donc dans notre quotidien pour susciter des vocations au service de la parole de Dieu? En ce dimanche, il est bon de le rappeler encore une fois de plus, être chrétien, c'est prendre l'engagement de devenir serviteur de la parole de Dieu. Oui, engagement, don de soi. Voilà des mots, quand nous les entendons, voilà, ils nous font souvent fuir, en tout cas pour beaucoup de gens. Et pourtant, quand dans la première lecture, Isaïe dit « Me voici, envoie-moi », voilà, cette réponse qu'il dispose à devenir prophète du Seigneur, il nous rappelle que c'est aussi notre réponse implicite, celle que nous avons donnée au Seigneur le jour où nous sommes devenus chrétiens, le jour où nous nous sommes engagés pour devenir ses enfants. Où en sommes-nous donc, frères et sœurs, avec cette réponse qui consistait à participer à la mission de Jésus, c'est-à-dire prêcher la parole, apporter courage et réconfort à ceux qui souffrent? Car qui que tu sois, frère et sœur, tu peux faire quelque chose pour Dieu et pour son Église. Certes, nous pourrions trouver comme excuse le fait de ne pas avoir de grands bagages théologiques pour pouvoir mener cette mission. Mais si nous avons été attentifs à la deuxième lecture, nous avons vu le témoignage de Saint Paul sur ce qui concerne, ou du moins ce que l'on peut appeler le cœur même de la foi, ce que l'on appelle le kérigme. Oui, il s'agit d'être témoin de quelqu'un, de Jésus, fils de Dieu, qui s'est incarné dans notre humanité, a vécu avec nous, qui est mort, du moins qui a souffert, qui est mort, qui est ressuscité et qui a apparu à des témoins. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de grand développement théologique. Est-ce compliqué, frères et sœurs, cela? Est-ce compliqué? Non, pas du tout. Il s'agit pour nous, frères et sœurs, tout simplement, je dirais, d'être témoin de Jésus, de l'événement qu'il a porté en passant au milieu de nous. Nous pourrions aussi peut-être, comme Isaïe ou encore Jérémie ou encore Simon, nous, du moins, arguer notre faiblesse, notre petitesse et même notre état de pécheur. Le psaume que nous avons médité nous dit « Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Oui, tu fis grandir en mon âme la force. Ta droite me rend vainqueur. Le Seigneur fait tout pour moi. » Ceci nous rappelle, frères et sœurs, que Dieu qui a l'initiative de l'appel, est celui-là aussi qui donne les moyens et la grâce pour y répondre de façon efficace. Ainsi, si nous lisons l'histoire de l'Église, si nous regardons, nous contemplons les grandes figures, nous pouvons ainsi voir que d'un persécuteur, Saul, Dieu a fait un apôtre, le plus ardent d'ailleurs qui soit. Tout comme de Jérémie, le jeune homme timide, il a fait un prophète intrépide. Et d'Isaïe, aux lèvres impures dont nous avons entendu le récit dans la première lecture, il a fait la bouche de Dieu. Et de Pierre, le renégat, dont nous connaissons bien l'histoire, Jésus a osé faire le fondement de son Église. Le Christ nous le dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. On pourrait entendre que personne de nous n'a d'excuse pour se sentir, non pas, ou du moins pour dire qu'il n'est pas concerné par cet appel de Jésus à être témoin. Mais ce miracle que Dieu, c'est le miracle que Dieu peut accomplir avec la vie de toute personne qui écoute et qui obéit à sa voix. Oui, il peut nous transformer, qui que nous soyons. Quelle que soit notre origine, quelle que soit notre histoire. Mais pour que ce miracle se produise, frères et sœurs, il nous faut certainement, comme Pierre, être capable de ravaler notre orgueil de professionnel de notre état de vie pour faire confiance à celui qui ne semble rien connaître de nous. Oui, parce que Pierre, quand il entend Jésus dire « Allez au large, jetez les filets », il aurait pu se taper la poitrine en disant « Mais moi, je suis un professionnel de la pêche. » Je m'y connais. Si toute la nuit je n'ai rien pris, ce n'est pas toi qui ne connais rien qui va venir me dire ce qu'il faut faire. Et pourtant, Pierre dit à Jésus, oui, moi qui suis le professionnel, j'ai peiné toute la nuit, je n'ai rien pris. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets et le miracle s'est produit. Oui, mais quelle foi? C'est grâce à sa foi et à sa confiance en Jésus que le miracle peut advenir. Comme dit d'ailleurs Saint Paul, Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime, c'est-à-dire ceux qui lui font confiance. Pour entrer dans cette mission, un chemin de conversion est nécessaire, frères et sœurs. Oui, qui enverrai-je? Qui sera notre messager? Que vas-tu donc répondre? Vas-tu choisir ta tranquillité et rester peinard dans ton coin? Ou vas-tu répondre comme Isaïe, « Me voici, envoie-moi » En méditant ce texte, il m'est venu à l'esprit une image que j'avais reçue d'un ami. Elle illustre deux files de personnes. Et la première file était intitulée « File de la critique ». Et elle était longue à l'infini. Et sur la deuxième file, elle était intitulée « Engagement pour résoudre les problèmes ». Et il y avait très peu de gens sur cette file. Je suppose que nous nous comprenons bien. Oui, frères et sœurs, nous nous plaignons très souvent de la déchristianisation de nos pays, de nos villes et même de nos familles. Mais aujourd'hui, en entendant ces textes qui nous appellent à, du moins, en prendre possession de notre vocation réellement, nous sommes en devoir de nous interroger. Oui, quand nous nous plaignons, à quelle initiative chrétienne avons-nous déjà pris part pour justement booster la foi? À quelle initiative? Combien de fois avons-nous préféré mettre notre lampe sous le lampadaire afin de vivre tranquille, ne pas être dérangé? N'est-il pas sidérant de constater aujourd'hui combien nous sommes majoritairement, d'une part, indifférents à l'essentiel, c'est-à-dire la lutte pour le droit à la vie, la lutte pour la vraie liberté, au respect des droits, et d'autre part, que nous pouvons être passionnés au dernier degré pour ce qui est dépourvu de tout intérêt salvifique. Oui, que ce soit le sport, la mode, le cinéma ou encore les discothèques, etc., etc. Oui, peut-être, comme Pierre, nous avons peiné des mois et des années sans grand résultat. Nous nous sommes engagés dans nos paroisses, nos quartiers, nos lieux de travail et de loisirs. Mais nous constatons que nos églises se vident, que nos jeunes ne viennent plus à l'église. Nos petits-enfants ne sont pas baptisés. Alors on se dit qu'il faut s'organiser pour sauver ce qui peut l'être. On ne pense qu'à se protéger d'un monde qui nous ignore, nous ridiculise ou nous persécute. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Ce qu'il nous demande, c'est ce qu'il a demandé à Pierre et à ses amis après leur échec. Allez au large, jetez les filets. Oui, une fois de plus, le témoignage de Paul est sans appel. La grâce de Dieu, nous dit-il, la grâce qu'il a reçue est la grâce. Cette grâce-là ne peut pas être stérile pour toute personne qui décide de l'accueillir, parce qu'elle nous met en mouvement et elle finit par porter des fruits. Il est donc évident que ce n'est pas en restant dans le confort de nos maisons, de nos églises, que nous pouvons répondre efficacement à l'appel du Christ. Allons vers les périphéries, comme ne cesse de nous y inviter le pape François. Ayons confiance, ayons foi, parce que le Christ est dans la barque avec nous. D'ailleurs, il y a eu bien des persécutions contre les chrétiens dans l'histoire du monde. Et pourtant, nous sommes là aujourd'hui. Et nous sommes la preuve vivante que rien ni personne ne peut arrêter la parole de Dieu. C'est une certitude. Et je voudrais vous donner cette citation de Winston Churchill, qu'il avait d'ailleurs sorti en des moments sombres de l'histoire de l'Angleterre. Voici ce qu'il disait. Le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal. C'est le courage de continuer qui compte. C'est le courage de continuer qui compte. Oui, frères et sœurs, notre vocation en rapport avec l'état spirituel actuel du monde est comparable à l'histoire de cet âne que je m'en vais vous conter. Certains l'ont déjà entendu, cette histoire. Mais face aux doutes et aux difficultés inévitables liées à notre mission, je souhaite que nous puissions en prendre graine afin de motiver notre engagement chrétien. On parle de l'âne d'un paysan qui était tombé dans son puits. Son maître, désespéré, essaya durant des heures de l'en tirer, et tandis que l'animal ne cessait de braire avec angoisse au fond du trou. Mais après avoir beaucoup essayé en vain, et après avoir beaucoup réfléchi, le paysan finit par prendre une terrible décision. Il décida que l'âne ne valait pas la peine d'être sauvé, tout simplement parce qu'il était très vieux, et en plus, le puits était très sec. Ainsi, il décida de combler le trou pour en finir et il demanda de l'aide à ses voisins. Chacun prit donc une pelle et l'on commença à jeter des pelletées de terre dans le puits. L'âne, inutile de vous dire, a tout de suite compris le sort qu'on lui réservait et il s'est mis à braire de plus belle. Les fossoyeurs continuèrent leur travail, mais à leur grande surprise, à un moment donné, ils n'entendirent plus l'âne braire. Et le propriétaire, intrigué, se pencha sur le puits et que voit-il? Il vit que l'âne était arrêté sur un monticule de terre. À chaque pelletée qu'on lui jetait, l'âne donnait une riade, se secouait, faisait tomber la terre, constituait un monticule et montait là-dessus. Et c'est ainsi que petit à petit, le monticule progressant, l'âne arriva au bord de la margelle et s'échappa. Il était sauvé. Frères et sœurs, Aujourd'hui, les raisons de nous apitoyer sur l'état de la chrétienté sont multiples. Chrétiens, nous recevons des pelletées de terre qui nous alourdissent, nous pèsent, nous laissent au fond du trou. Et il n'est pas rare que les autres essaient de nous enfoncer à cause de notre foi. Mais ce petit texte prouve bien que chaque épreuve est aussi un échelon à gravir pour s'en sortir et parvenir au sommet. Et cela, bien sûr, main dans la main avec le Seigneur. Comme l'âne, donc, frères et sœurs, n'hésitons pas à ruer dans les brancards, secouons nos problèmes. Et comme écrivait Thomas Edison, je ne me décourage pas, car chaque tentative infructueuse qu'on laisse derrière soi constitue un pas en avant. Prions pour tous ceux qui se dévouent au service du Seigneur et demandons pour nous les grâces de la générosité et de la persévérance pour être vraiment des témoins et des serviteurs de la parole. Que Dieu nous écoute et nous exauce, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.